Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
J'entendais des dents grincer hier, mais grincer à l'autre bout de Montréal. J'entendais ça grincer. Je pense que c'était les dents de Rémi Villemur hier, un de mes collaborateurs, avec Julia Pagé qui est là aujourd'hui, lorsqu'il a entendu Éric Duhaime dévoiler son nouveau slogan « Libre chez nous », qui fait un rappel historique que certains pourraient qualifier d'audacieux peut-être, Rémi. Peux-tu me donner tes impressions maintenant que tes dents se sont rétablies?
Ouais, mes dents se sont rétablies. Audace, c'est pas le mot que je choisirais ce matin. Moi, je pense que, ou bien Éric Duhaime est un très mauvais témoin de l'histoire, ou bien il a vraiment décidé d'en berner certains, mais ça sera pas nous ce matin. Écoutez, c'est un slogan qui est très mal choisi. Le slogan « Maître chez nous », c'est celui du Parti libéral du Québec en 1962. Là, c'est le slogan donc qui inspire celui d'Éric Duhaime. C'est un slogan qui, soit dit en passant, a été associé à la nationalisation de l'hydroélectricité. Donc, la nationalisation, je suis même pas certain qu'Éric Duhaime l'aurait supporté en 1962 en libertarien assumé qu'il est.
Ouais.
Donc, déjà, première bourde théorique et symbolique pour Duhaime. Il s'inspire d'un slogan qui est nationaliste, qui va se trouver au cœur, à l'époque, de la formation d'un État-providence québécois, ce qu'il combat vigoureusement aujourd'hui. Il y a le slogan. Et il y a aussi, un autre passage quand même dans la conférence de presse, c'est beaucoup inspiré de Jean Lesage. Il se compare à un homme, en fait, à mon avis, à qui il n'arrive même pas à la cheville. Si Duhaime a peut-être du flair, ben Jean Lesage lui avait du génie. Un génie qui a fait en sorte qu'il s'est entouré de gens de qualité à l'époque. Là. Je veux dire, les cabinets de Jean Lesage en 60 et en 62, c'est René Lévesque, c'est Paul Gérin-Lajoie notamment. C'est qui les René Lévesque et les Paul Gérin-Lajoie d'Éric Duhaime? C'est pas un détail, là. Je veux dire, aujourd'hui, le Parti conservateur du Québec, c'est le parti d'un seul homme. À l'époque, le Parti libéral du Québec, c'est le parti de toute une équipe, littéralement. Donc, vraiment, c'est complètement raté. Mais je donnerai quand même pas la note de E à Éric Duhaime, puisqu'il s'est essayé. Il a juste mal choisi son époque et il a mal choisi son personnage aussi.
Parce que dit aussi hier, le monsieur Duhaime, il veut que les Québécois soient davantage libres chez eux à l'intérieur du Québec, contrairement à Jean Lesage qui parlait d'être maître chez eux à l'intérieur du Canada. Pourtant, là, évidemment, il ne se revendique pas comme souverainiste, veut être à l'intérieur du Canada. Ce matin, sur nos ondes, il était en entrevue avec mon collègue et il a réaffirmé qu'il n'était pas là souverainiste du tout. Toi, qu'est-ce que tu vois dans ce drôle de parallèle historique-là? Parce que je vais reprendre quand même, juste avant de te passer le bâton, Julia, pour le parallèle avec Jean Lesage et la nationalisation de l'électricité, de notre hydroélectricité, pour rappeler que Libre chez nous, là, son slogan va être affiché sur un VUS qui n'est pas du tout électrique aussi, j'en profite pour le dire. Julia, tu penses quoi de tout ça?
Ben, moi, je donne allègrement la note de E à Éric Duhaime. Je comprends pas ce qu'il a essayé de faire. En fait, oui, je comprends un peu. Je pense que c'est vraiment une tentative d'inventer à son parti une genre de tradition, une substance, une généalogie politique qu'il n'a pas et que la plupart des autres partis ont. Et c'est à peu près le propre des nouveaux partis. Ils n'ont pas vraiment des racines profondes et ils peuvent décider de jouer sur l'idée de la nouveauté ou bien de s'inventer des racines de toutes pièces. C'est visiblement ce que Duhaime a essayé de faire et assez mal. Mais malheureusement, il suffit pas d'invoquer nos très, très grands premiers ministres pour que soudainement, ils gagnent en légitimité, en crédibilité. Je vois pas Duhaime d'un autre œil ce matin. Puis c'est vrai qu'on a parlé il y a quelques semaines de Lévesque et de la possibilité de s'approprier son héritage, peu importe le parti, peu importe la tradition politique. Mais Rémi a tout à fait raison de le rappeler. Quand on regarde ce que Lesage a fait, c'est évidemment la nationalisation de l'hydroélectricité, c'est aussi le régime des rentes, c'est les allocations familiales. Donc, très forte dépense gouvernementale, très fort interventionnisme étatique. Et c'est comme l'exemple parfait de l'État-providence, tout ce que Duhaime déteste. Donc, moi, je pense que, ouais, effectivement, il n'a pas bien écouté pendant ses cours d'histoire. Et, ouais, je serais curieuse de voir qui pourrait comparer à un La Palme ou à un Gérin Lajoie dans son équipe. Certainement pas les actrices qu'il recrute dans ses rangs.
Ouais, parce que là, ça va rester le gros point d'interrogation là pour le reste de sa campagne jusqu'à l'automne, savoir de qui il va s'entourer. Déjà à date, le peu de candidats qu'on connaît, il y en a certains qui sont, disons, là, sur la marmite, parce que déjà, il y en a qui ont affirmé là, des positions par le passé anti-avortement, entre autres. Donc, c'est certain que, même si... Faut être honnête, M. Duhaime rappelle que lui va rester pro-choix, peu importe, et que son parti va l'être aussi. Déjà, le peu de candidats qu'il y a ne suscite peut-être pas la sympathie autour. Il va falloir voir là, de quel Paul Gérin-Lajoie et de quel René Lévesque il va s'entourer dans son équipe pour le reste de la campagne. Une autre question, un autre sujet que je trouve si important, puis duquel on n'aurait pas assez, je pense, d'une heure pour discuter, mais je veux quand même revenir là-dessus. Un document qui a été publié il y a 2 semaines par l'Institut de Reuters pour l'étude du journaliste de l'Université d'Oxford en Angleterre, qui sondait le niveau d'intérêt des membres de certains pays pour l'information environnementale, plus particulièrement l'information qui cible les changements climatiques. Et sur une des 50aines de pays notés, ben le Canada se classe dans les plus bas. On se trouve au 31e rang sur 46 pays. C'est seulement 39% de la population qui se dit intéressée par les informations qui concernent les changements climatiques. Julia, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est pas complètement déprimant de voir ce chiffre-là? Et c'est peut-être justement pour ça que ce chiffre-là est aussi bas, parce que les nouvelles sont aussi déprimantes concernant les changements climatiques?
Oui, c'est sûr que ça compte beaucoup. C'est dur de pas être déprimé quand on parle d'environnement. On n'a pas souvent des bonnes nouvelles. Et ce que l'étude nous dit, et qui, pour moi, est sûrement le nerf de la guerre pour la cause environnementale, c'est que tous les pays sont pas affectés également par les changements climatiques. Donc, tous les pays ne se sentent pas également concernés par cet enjeu-là, pourtant très grave. Au Canada, au Québec, par exemple, on n'a pas eu de grands bouleversements climatiques. Donc, on sent moins l'urgence. Souvent, on va entendre parler des changements climatiques comme d'une éventualité. On parle de préparer l'avenir, alors que pour d'autres pays, c'est tout simplement un quotidien. Il y a des inondations, des sécheresses immenses, des morts. Dans certains pays, il y a des morts liées au changement climatique. Et dans d'autres, comme au Canada, on tente plutôt de prendre une posture où on se prépare. Donc, ce qui est difficile quand on est Canadien, Québécois, c'est que quand on s'informe, tout comme quand on décide de plus acheter des produits avec de l'huile de palme, de plus manger de viande, de réduire notre consommation en général, et que c'est très coûteux, c'est-à-dire que ça nous demande beaucoup d'efforts et qu'on n'en voit pas les effets directement parce qu'on n'est pas les plus affectés. Donc, on s'informe, ça nous angoisse, ça nous déprime. Quand on prend action, on ne voit pas les effets directement. Donc, pour nous, c'est peut-être un peu plus compliqué d'être investi. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en tant que pays, on est vraiment dans les plus polluants au monde et les moins affectés par les changements climatiques au monde, ben on a un devoir d'action qui est immense.
Comment on peut faire, Rémi, pour intéresser les gens? C'est une grosse question que je te pose, là, mais comment on peut faire pour intéresser les gens aux questions climatiques comme ça sans justement rendre tout le monde climato-anxieux? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Je pense que il faut redéfinir. Déjà, moi, je suis très pessimiste par rapport à la nature humaine. Moi, je pense qu'on va se mettre à capoter quand on va avoir de l'eau sous les genoux, pas avant. Je veux dire, durant la COVID, on a vu les gens se précipiter vers le papier de toilette quand ils ont eu des bonnes raisons de croire que les chaînes d'approvisionnement allaient être bousculées. Hein? Mais avant ça, ils n'avaient pas pensé avoir des surplus de papier de toilette. Mais ça va être la même affaire avec l'environnement. On se mettra jamais à capoter avant d'avoir de l'eau sous les genoux. C'est la nature humaine. Donc, il faut redéfinir ce qu'on appelle urgence climatique. Puis il faut aussi, je pense, arrêter de penser qu'on va un jour être solidaires tous les pays les uns envers les autres. Ça arrivera pas à ce moment-là. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Même sous le nazisme, Hitler avait des alliés. OK? Donc, l'urgence climatique, j'y crois. Moi, je crois les scientifiques, mais un projet réaliste, ça se fait à l'intérieur des pays. Par exemple, au Québec, je pense qu'on peut devenir un leader dans la lutte au changement climatique. On peut réaliser des projets, on peut inspirer d'autres États dans le monde. Mais est-ce qu'on peut faire ça à l'intérieur du Canada? C'est une grande question. Est-ce que le Canada, qui est un État, comme vient de le dire Julien, extrêmement pollueur, qui exploite le pétrole sale de l'Alberta, qui va le faire encore pendant tout le siècle qu'on est en train de traverser, est-ce que le Québec peut véritablement s'émanciper comme ça et devenir un État vert? Non. Donc, il y a peut-être des solutions, comme l'indépendance du Québec, qui existent pour véritablement devenir un leader à l'échelle internationale. Il faut abandonner l'idée qu'un jour, on va tous être solidaires les uns envers les autres. Ce n'est jamais arrivé, ce n'est pas dans la nature humaine. C'est pessimiste, je le sais, mais c'est réaliste aussi.
Non, je crois que ta position, oui, est pessimiste, oui, réaliste aussi là-dessus. C'est vrai que de même face à un ennemi commun, disons, le potentiel de rassemblement est limité. Et pour ça, je pense qu'il faudrait aussi être capable, à l'intérieur des pays, comme le Canada, par exemple, être capable de s'entendre sur les changements climatiques. Tout à l'heure, je recevais Tasha Carradin, qui est la co-directrice de campagne de Jean Charest, hein, à la course au leadership du Parti conservateur du Canada. Et je l'ai interrogé à savoir, dernière fois, au sein du Parti conservateur du Canada, en 2021, en mars 2021, ils n'ont pas été capables de faire passer une motion pour reconnaître l'existence des changements climatiques. C'est grave, c'est quelque chose. Elle me garantit que si M. Charest devient le chef du Parti conservateur du Canada, qu'il saura utiliser ses pouvoirs de persuasion pour être capable de rassembler le Parti conservateur. Mais là, moi, ce qui transparaît, c'est que on n'est même pas capable de s'entendre, d'avoir tout le monde du même côté pour reconnaître que ça existe, les changements climatiques. Et là, je parle du Canada. Si on regarde les États-Unis, on va pas se lancer à regarder les États-Unis. Il y a une majorité des gens. D'ailleurs, les États-Unis arrivent tout bon dernier, la nation qui s'intéresse le moins aux informations qui traitent les infos de changement climatique selon l'étude qu'on a nommée en début de sujet. Donc, je suis bien pessimiste moi aussi par rapport à tout ça, mais peut-être que le Québec peut devenir un leader, peut-être qu'au Parti conservateur, ils vont s'entendre et savoir que les changements climatiques existent, peut-être. C'est des questions qui vont rester en suspens. Chose certaine, on n'a pas fini d'en parler. Merci à vous deux, Julia, Rémi. On se reparle demain.
Merci.
À demain.